Madicast, le podcast qui booste ta créativité.
Bienvenue dans Madicast, donc le podcast créé par l'agence Madigood et qui explore le monde passionnant de l'entrepreneuriat, du design et de la création. Je suis Anthony, votre hôte dévoué, prêt à vous emmener dans un voyage captivant au cœur de l'innovation, de l'inspiration et de la création. Rejoignez-nous chaque mois pour des conversations fascinantes avec des esprits créatifs et des entrepreneurs visionnaires. Préparez-vous à découvrir les secrets du succès, à repousser les limites de votre créativité et à vous inspirer pour réaliser vos rêves, vos envies et vos créations. Bienvenue. Et j'ai l'immense plaisir et honneur de recevoir Fanny Arnaud, qui est la fondatrice d'Antaou, qui sont des tapas à tartiner et qui va nous expliquer. Donc, bienvenue Fanny. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter ta marque?
Ben Anthony, tout le plaisir est pour moi.
Déjà. Enchanté.
Merci de m'inviter pour ce premier épisode.
Avec grand plaisir.
J'ai un peu la presse.
Pas du tout. On est en famille ici, tranquille.
Donc Antaou, c'est des produits d'apéro qui sont aussi bons que s'ils avaient été faits maison. Aujourd'hui, on a une gamme de 6 verrines prêtes à déguster, qu'on va retrouver principalement chez les cavistes, les épiceries fines, mais plus globalement chez tous les commerces de bouche de proximité. Et tout ce qui est café, hôtel, restaurant, qui souhaitent proposer une vraie expérience autour de l'apéritif, puisque c'est souvent comme ça que débutent les bons moments.
Quelles seraient les 3 valeurs piliers de ta marque?
Je pense déjà à l'authenticité, parce qu'on essaye de vraiment traduire le goût des ingrédients à travers les recettes. C'est très important pour moi de sentir la fraîcheur de tous les produits bruts qu'on utilise, bien sûr sans intrants, donc sans conservateur, sans colorant ni arôme artificiel. Je dirais l'audace, parce que ce qu'on fait, on le voit nulle part ailleurs. Comme par exemple la gamme à base de fromage. Je vous mets au défi de mettre du fromage en conserve. Et ensuite, je dirais l'humain, parce que dans l'entrepreneuriat, dans les startups, c'est souvent des petites équipes où l'humain passe avant tout. Et pour moi, en tout cas, c'est très important de bien m'entendre avec les gens avec qui je travaille. On est à la fois professionnel et convivial.
Super. Voilà. Et Fanny, du coup, tu as créé Antaou depuis combien de temps maintenant?
Ça fait à peu près un an et demi.
Ok.
Au mois de juin 2022.
Ok, super cool. Est-ce que tu pourrais nous donner ta propre définition de la créativité et comment elle s'insère dans ta vie de tous les jours, en tout cas dans le développement de ton entreprise?
Je pense que la créativité, c'est un moyen d'expression, en fait, et que souvent, le contente à des activités spécifiques comme l'art ou ton métier, par exemple, où on est sur de la créativité pure, mais finalement, je pense que la créativité, elle est un peu de partout. Pour moi, c'est peut-être la culture de l'esthétique, je pense, la créativité. Enfin, en tout cas, c'est à ça que je l'apparente. Et comment je fais pour la mettre dans mon activité?
Alors, tu vois, moi, je nuancerais tes propos parce que dans notre activité, effectivement, il faut être créatif. Mais dans ton métier aussi, tu as parlé d'audace notamment dans les recettes, ça nécessite quand même une dose de créativité. Une créativité à plusieurs niveaux, ça peut être une créativité aussi bien sur la recette, mais également sur le conditionnement, puisque tu l'as dit toi-même, il faut mettre du fromage en conserve, c'est pas évident. Donc justement, comment toi t'arrives justement à stimuler ça? Ça peut être à la fois une créativité sur de la recette, mais une créativité peut-être sur même la technicité pure.
Bah, je pense qu'il faut oser, en fait, faut faire des tests, faut pas avoir peur, faut se faire confiance, et puis voilà, faut juste tester, essayer, recommencer, et puis s'améliorer.
Et toi, du coup, qu'est-ce qui a façonné ton goût pour les bonnes choses, pour justement ce côté sublimer l'apéro?
J'ai toujours aimé le fait de recevoir. Et en fait, je pense que j'aime beaucoup les expériences à 360. Je trouve que c'est ce qui m'intéresse le plus parce qu'on va pouvoir vraiment jouer sur les petits détails. C'est ça qui va faire la différence. Mes parents tenaient l'une des premières maisons d'hôtes marseillaises. Donc, j'ai grandi dans la cuisine. Ils ont toujours beaucoup cuisiné et ils ont aiguisé une certaine curiosité chez moi. Donc, je vais beaucoup au restaurant. Et généralement, j'aime bien aussi aller dans des restaurants où on ne choisit pas forcément. Il y a un menu unique et je demande de ne pas regarder la carte. Et je vais chercher, essayer d'aller retrouver des saveurs, faire des comparaisons. Et ça m'amuse, en fait. C'est mon hobby.
Et qu'est-ce qui est pour toi synonyme d'une expérience culinaire réussie?
Je pense qu'aujourd'hui, on commence tous à élever notre niveau d'exigence par rapport à ce qu'on attend quand on va dans un restaurant. Les premières fois où j'allais au restaurant, on voulait juste manger bien. Déjà, c'était bien. En tout cas, à Marseille, c'était, je dirais, dans les années de Marseille 2013, avec la capitale de la culture. Tu voulais juste manger un bon plat bien fait dans un resto. Maintenant, c'est plus suffisant. Non seulement tu veux un service de qualité, mais en plus, tu veux qu'il y ait une belle déco, un bel environnement. Et ça, je pense qu'on le retrouve de partout. Et on le voit sur tous les métiers, finalement, de l'hospitalité, parce que c'est pareil dans les hôtels, c'est pareil dans les maisons d'hôtes. On va vraiment chercher à ce que les gens se souviennent d'un, et une empreinte émotionnelle dans l'endroit qu'ils ont visité. Et ben, moi, par le biais de mes produits, ça va s'inscrire par le goût, la texture, les saveurs, le packaging, tout l'univers de la marque, pour être certaine qu'on place le consommateur dans les meilleures conditions au moment de déguster son apéritif. Parce que pour moi, être avec les gens qu'on aime, ça suffit pas. Ou en tout cas, quand on est avec les gens qu'on aime, ben on veut le meilleur. Donc, il faut que tout soit recherché.
Est-ce que tu pourrais nous décrire justement une expérience en Taou?
Ah ben oui, j'en ai une. Je sais pas si tu t'en souviens, parce qu'on l'a vécu ensemble. En tout cas, moi, elle m'a marquée. C'était en janvier ou février 2023 où j'ai reçu toutes les équipes avec qui je travaillais. C'est marrant, on revient sur l'humain du coup.
Bien sûr.
Et j'avais eu envie de vous offrir une expérience en Taou de la manière dont je la vivais. On avait tamisé les lumières, allumé des bougies et j'avais demandé à une amie à moi, sommelière avec qui on a travaillé sur les accords mets et vins, de faire un petit atelier de dégustation avec les produits. On avait travaillé sur un accord avec du comté au vin jaune et un vin de Loire. Et en fait, il y a une cinquième saveur qui était sortie au moment de la dégustation des deux produits ensemble. Et en tout cas, moi, je sais que ça m'a vraiment marqué, quoi. Je sais pas ce que...
Ah bah, c'était délicieux, bien
voilà,
sûr.
Quels étaient tes souvenirs. Et voilà, moi, j'ai cette image, lumière tamisée, les petites bougies qui scintillent et cet accord-là qu'on a en bouche et les gens qui sont autour et qui disent « waouh », quoi.
Ouais, non, c'était délicieux. Je me rappelle très, très bien. C'était divin. Non, c'était super. Justement, toi, t'es beaucoup axé sur le côté apéro... Recette innovante, accord mets et vins. Est-ce que c'est ça, en fait, le cœur d'Antaou?
Ben, je pense parce que c'est un tout qui fait qu'on vit une expérience. Donc, je ne fais pas juste des produits d'apéritif parce que sinon, ben, il y en a déjà plein. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur le petit détail caché. On se prend la tête parfois pour une phrase pendant des heures. Pour une couleur, c'est la même chose. Mais parce qu'en fait, je pense que certaines personnes, ils sont sensibles et voit le diable qui se cache dans les détails. Et d'autres personnes n'y prêtent pas forcément attention, mais finalement, du coup, ça fait partie d'une expérience globale qui les met dans les bonnes conditions pour vraiment passer un bon moment, quoi.
Quelles seraient, du coup, pour toi, tes prochaines envies créatives? T'aimerais nous parler?
J'aimerais développer des produits... En fait, il a fallu que je démarre par une gamme de produits et que je m'inscrive là-dedans. Donc là, j'ai Siverine, mais aujourd'hui, je suis apparentée à une marque de tartinables et je trouve ça très réducteur. Non, moi, ce que je veux, c'est faire l'apéro. Donc, il va falloir que je développe des produits complémentaires. Je ne sais pas encore lesquels, là, maintenant, tout de suite, mais...
Alors, si tu devais nous raconter une histoire en nous présentant ta vision de l'apéro parfait, ce serait quoi?
L'apéro parfait, bah, ce serait l'apéro de dernière minute, coucher de soleil. Bah, typiquement, un temps un peu comme on a eu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on... Le soleil est hyper agréable, mais en même temps, il n'est pas trop chaud. En plus, à cette époque-là, généralement, il y a des couleurs qui sont magnifiques dans le ciel. Une bonne petite bière bien fraîche, un peu légère, ou alors un petit vin, pareil, un peu plutôt sur la légèreté. Des bons copains, parfois un peu de musique, mais ce n'est pas obligé. Et j'aime bien avoir, même si c'est un apéro, plutôt pique-nique finalement.
Ok.
Mais avec un petit peu chiadé quand même, avec une petite nappe, des verres à vin, très très important. Hein. On part avec un tire-bouchon et des beaux verres, s'il vous plaît.
Ouais.
Et puis voilà quoi, on okay. se concentre sur l'instant présent. Téléphone éteint.
Téléphone éteint, bien sûr. Et plutôt un petit sunset, un petit coucher de soleil.
Plutôt un petit sunset, on a le droit au téléphone juste pour une playlist Spotify.
Ok, avec un titre en tête?
Faudrait que je cherche.
Là, en notoriété instantanée, tu dirais quoi?
Je te dirais « If I ever feel better » de
Phoenix. Très bon choix. French Touch, on adore. Est-ce que tu pourrais nous donner une référence, une personne, une marque, une ville, un lieu qui t'inspire et pourquoi ça t'inspire?
Ah ben, je crois que j'ai la personne qu'il te faut, puisqu'elle regroupe tout à la fois. Je vais te parler de André Gasse, le fondateur de la marque éponyme, marque marseillaise. Et pourquoi c'est une très belle inspiration pour moi ? Bah déjà parce que l'homme est quelqu'un que j'apprécie énormément en tant que personne, mais par rapport à son processus créatif, parce que c'est quand même l'objet de ton podcast, en fait, c'est quelqu'un qui se repose jamais sur ses acquis et qui va toujours chercher à améliorer un modèle, même s'il fonctionne. Il suit son instinct et je pense qu'il a raison et c'est pour ça qu'il est indétrônable sur le bijou fantasy depuis un peu plus de 50 ans, je crois. Donc, je trouve ça très inspirant.
Et comment il arrive justement à se renouveler sa créativité sans cesse ?
Ben, j'espère que tu lui demanderas.
Avec grand plaisir.
Mais de ce que je sais, c'est principalement les voyages, mais aussi les restaurants, les couleurs. En fait, je pense que quand on est dans un process créatif, faut être ouvert en permanence et pouvoir accueillir la créativité sous toutes les formes dont elle peut s'offrir à nous, quoi. Photo, musique, resto, amis, moments.
Alors moi, du coup, ben, j'aimerais parler de ton processus créatif, justement. Comment t'élabores justement une recette ? Comment ça se met en place ?
Alors déjà, comparé à d'autres marques qui sont sur le créneau de l'apéritif, moi, je pars pas des recettes apéritives en elles-mêmes. Je pars de plats que j'aime cuisiner, je les transforme en produits d'apéro. Ensuite, ben, c'est de la cuisine. Donc, je vais aller dans des restaurants ou chez des amis, je vais goûter certaines saveurs, je vais me dire, bon ben ça marche bien ensemble, et puis ça, je le verrai bien avec ça. Et en fait, il y a une grosse partie du travail, du coup, qui se passe dans ma tête en amont, sur l'association des saveurs. Ensuite, je commence à avoir une certaine expérience, donc en termes de technique, je sais ce qu'il va falloir que je mobilise pour arriver à un résultat souhaitable. Et ensuite, eh ben, je vais faire mes petites courses, et je fais les essais chez moi. Donc, je cuisine, j'ai vraiment une cuisine, comment dire, spontané quoi. Je suis pas chef, donc je fais à l'instinct, je note tout ce que je fais, donc je dois tout peser. C'est la partie un peu moins rigolote parce que souvent j'oublie en plus de peser. Je suis dans ce mode vraiment créatif. Et ensuite, je fais mes mélanges, je fais mes cuissons, je mets dans un petit pot, je fais cuire au bain-marie pendant 1 heure. C'est le process de stérilisation, un peu homemade, hein. Et ensuite, je goûte généralement le lendemain, une fois que le produit est bien retombé en température. Et là, je fais mes ajustements. Est-ce que je cherche plus d'acidité ? Est-ce que c'est la texture qui ne me va pas ? Et ensuite, je fais plusieurs essais. La recette qui m'a demandé le plus d'essais, c'est une 60aine d'essais pour le crémeux de comté au vin jaune. Et généralement, je me fais assez confiance pour arriver à la saveur que je souhaite. Et c'est possible que je fasse goûter à certaines personnes de mon entourage, qui sont généralement un peu triés sur le volet pour avoir des vrais retours et pour pouvoir améliorer le produit. Et ensuite, une fois qu'en interne, la recette est validée par mes soins, je transmets au fabricant qui, lui, va réaliser entre 3 et 4 essais pour arriver au résultat final.
Oui, donc c'est quand même, il y a beaucoup d'étapes de création juste pour une recette, hein. Donc ça se fait pas en 15 jours.
Ah non, ça se fait pas du tout en 15 jours, même si aujourd'hui j'essaye d'aller un petit peu plus vite. Et ensuite, il y a toute la partie étiquette, la punchline qui va bien, parce que ça nous demande quand même beaucoup de travail.
Ouais, toute la partie branding, ouais. Construction de la perception.
Parce qu'on s'arrête pas là, ouais.
Du coup, depuis maintenant que tu es femme entrepreneur, est-ce que tu trouves encore du temps pour créer ? Comment tu gères justement ton activité, ce pic de travail ?
Ben, j'apprends à me connaître, déjà. Je pense que c'est important de le dire. Il y a des moments ou des lieux qui sont propices à la créativité. Et c'est pas du tout le bureau, hein, je vous le dis.
Ouais,
déjà.
Ça, c'est clair.
Moi, ce qui me permet un peu de m'évader, d'être plutôt créative, c'est d'être dans un beau lieu. Donc, j'aime bien un bel hôtel, une belle terrasse de café ou alors un bel environnement. Parfois, ou chez moi, tranquille, avec un peu un son musical, ça marche aussi. Et faut pas trop se mettre la pression. C'est ça qui est difficile, je pense.
Ouais, c'est le plus compliqué, hein. Après, quand t'es impliqué justement dans ta société, dans le développement de ta structure, ne pas se mettre la pression, c'est un peu compliqué. Il faut arriver à trouver ce juste équilibre entre vie perso et vie pro, déjà. C'est jamais évident, on est d'accord. Mais surtout, à se mettre là une pression, je dirais juste et pas toxique. Mais bon, c'est tout l'équilibre.
Je dirais que ce qui est difficile, c'est les deadlines, en fait.
Ouais. Ouais,
parce que quand tu te dis il faut que je crée un produit ou n'importe quoi, enfin j'ai quelque chose à développer, mais même du contenu, j'ai une deadline et tu commences à te mettre un cadre, en fait ça te bloque. Et finalement les moments où on est plus créatif, C'est à la maison en regardant Netflix, c'est pendant que tu fais un footing, c'est pendant que tu es à la plage, c'est en fait finalement c'est le...
Sous la douche, ça marche très bien.
Ça marche très
bien. Il y a beaucoup d'idées de génie qui ont été créées sous la douche, hein. Ça c'est évident, clairement. Ouais. Du coup, bah, toi, depuis que tu entreprends, c'est quoi les nouveaux challenges que t'as, auxquels tu as été confronté et auxquels tu as répondu d'ailleurs ?
On a cherché à pousser la marque beaucoup plus loin. On a cherché à comprendre aussi les besoins de consommation du consommateur. Donc sur ça, on a fait un gros travail. Et après, je dirais que mon challenge, il est plus personnel. C'est comme je suis passionnée de food depuis toujours, je suis, je ne sais pas combien de comptes sur Instagram, Pinterest, c'est la même chose. Donc j'ai beaucoup d'inspiration, j'ai envie de faire plein de choses. Mais quelque part, en fait, si on veut avancer, il faut qu'on arrive à canaliser notre énergie. Et je dirais que mon challenge, il est surtout là-dessus, quoi.
Arriver à te concentrer sur une tâche, bien la finir, la mener à bien.
Oui, et puis prendre des engagements avec une marque. Et en fait, on bâtit une marque. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc d'un côté, au fur et à mesure qu'on vit avec elle, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on attend. Mais après, quand on a pris certains engagements, il faut les fixer et les suivre. Parce
bien
que
sûr.
Sinon, les gens, on les perd, quoi.
Toi, avec ta marque, tu travailles avec différents artisans aux quatre coins de la France. Comment tu arrives à collaborer avec eux sans imposer ta manière de faire pour qu'elle soit justement dans une étape de collaboration ?
Ben déjà, j'ai rencontré la France entière. Donc, je peux te dire que ceux que j'ai choisis, je sais pourquoi je les ai choisis. On s'est choisis mutuellement parce que moi, je vais aller les challenger sur ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont souvent... C'est assez répétitif ce qu'ils font et toujours les mêmes bases de recettes, les mêmes tapenades, etc. Donc, en fait, ils sont hyper contents quand je vais les voir avec de la nouveauté.
Ouais, tu les challenges un peu.
Exactement.
Ouais.
Alors, ils tirent un peu la gueule, hein, quand même, parfois. Là,
au début, c'est toujours dur. Mais justement, c'est là où tu dois raconter peut-être une histoire et pouvoir les embarquer avec toi dans le projet.
Oui, parfois, c'est pas évident de se comprendre parce que même si je leur donne des échantillons de produits que j'ai faits, ils n'arrivent pas forcément à se projeter. Je pense qu'on arrive avec Antaou à éveiller leur curiosité. Ils ont envie de tester des nouvelles choses et on leur donne les moyens d'eux parce qu'on les sort vraiment des sentiers battus, ce qui n'est pas forcément ce que d'autres marques pourraient leur demander. Et après, on échange beaucoup et c'est vrai que dans mon métier, c'est simple. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais en fait, ça ne suffit pas de dire « j'aime pas ». C'est pour telle et telle raison. Et en fait, je pense que ça fait partie des valeurs qui m'unissent à mes fabricants. Le goût du travail bien fait. Voilà, je pense que c'est l'essentiel. Et que du coup, quand on recommence, on sait pourquoi. Et on sait que c'est pour arriver à un résultat final qui va être, en tout cas, on l'espère, proche de la perfection, quoi.
Trop bien, trop trop bien. Je finirai avec une dernière question. Si tu devais donner un conseil à une personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, peut-être ton toi d'il y a un an et demi, ça serait quoi le conseil que t'aimerais donner ?
Oser, 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 oser. En fait, je me rends compte que toutes les fois où je suis un peu perchée, et c'est souvent dû au café, mais toutes les fois où je suis un peu perchée, finalement, où j'y vais en me disant ben, je suis moi-même et je m'amuse, mais ça marche, mais 10 fois mieux et c'est beaucoup plus agréable en fait. Donc oser. Oser être soi-même.
Oser pour prendre du plaisir.
Exactement.
Trop bien. Merci beaucoup, Fanny.
Merci à toi.
Et puis, à bientôt et retrouvez Antaou sur les réseaux sociaux et les plateformes pour déguster ces magnifiques tapas à tartiner.